Vous écoutez France Culture.
Bonjour Julie Clarigny et Brice Couturier. L'antenne est à vous et à vos invités pour l'émission du Grain à Moudre.
Merci Pierre Chevalier, bonjour à tous. Aujourd'hui, la défiscalisation des intérêts d'emprunts immobiliers fera-t-elle de nous des propriétaires ?
Du Grain à Moudre, Julie Clarigny.
Brice Couturier. Et vous, voulez-vous une France de propriétaires ? Que ce soit la mesure dont les Français attendent qu'elle soit le plus rapidement mise en œuvre, cette déduction des intérêts d'emprunts immobiliers. Alors c'est vrai, en France actuellement, seuls 58% des ménages sont propriétaires de leur logement, contre plus de 70% aux États-Unis et même plus de 80% en Espagne. L'idée de rendre plus facile, grâce à une déduction d'impôt, l'accès à la propriété séduit donc une très large part d'entre nous. Pourtant, ce que l'on tient pour une évidence, mieux vaut un petit chez-soi, etc., n'en est pas une. Mieux vaut, quand on a des revenus modestes, être logé dans un HLM que s'aventurer dans l'accession à la propriété qui demandera un effort financier mensuel bien plus élevé, et ce, malgré ces fameuses nouvelles mesures. C'est bien là le problème. À qui s'adressent ces nouvelles incitations fiscales ? Certainement pas aux plus défavorisés d'entre nous, qui sont dans une autre urgence, celle de trouver des logements à loyer accessibles. En effet, la part de la dépense logement ne cesse d'augmenter depuis plusieurs décennies, pour tout le monde, avoisinant aujourd'hui les 25 à 30%. Mais rapporté aux revenus disponibles, ce pourcentage peut représenter une somme trop faible pour simplement obtenir une location décente. La question centrale n'est peut-être donc pas celle de la propriété, mais celle tout simplement de l'accès au logement. Alors, une France de propriétaires ou une France qui permet à chacun de se loger, la question se pose d'autant plus que la mesure va coûter cher, si cher qu'elle impliquera, peut-être, des ambitions à la baisse pour le parc locatif privé et le logement social. D'autre part, dans un marché qui souffre, nous dit-on, d'une crise de l'offre, offrir une meilleure solvabilité aux ménages risque de favoriser la surchauffe, autrement dit de faire monter un peu plus les prix et d'écarter, pour plusieurs années encore, ceux qui n'arrivent déjà pas à boucler un budget d'achat. Bref, la rupture en termes de politique du logement passe-t-elle par la propriété ?
Alors pour en parler, nous sommes avec Christian Julienne qui est en duplex d'Avignon. Christian Julienne est économiste, il est président de Héritage et Progrès. Nous l'avons déjà reçu ici pour son livre qui s'appelle « Logement, solution pour une crise fabriquée, qui était paru aux belles lettres l'an dernier. « Logement, solution pour une crise fabriquée ». Patrick Doutreligne est délégué général de la Fondation Abbé Pierre, il est directeur de la publication Sur le mal logement. Jacques Donzelot est sociologue, maître de conférence en sociologie à l'Université Paris 10. Son dernier ouvrage que j'ai lu s'appelait « Quand la ville se défait, c'est Paris au seuil » l'année dernière et c'était excellent. Alain Tranois, économiste, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, directeur de l'IDEP. L'IDEP, c'est un institut d'économie publique qui est situé à Marseille. Et Claire Lévy-Vreland, professeur de sociologie à l'Université de Paris 8 Saint-Denis. Elle s'occupe en particulier des questions d'habitat, puisque son dernier livre, qui vient juste de sortir, s'appelle « Une chambre en ville ». C'est une étude sur les garnis et les hôtels meublés à Paris entre 1860 et 1990. Elle l'a coécrit avec Alain Faure et ça vient de sortir donc chez Créafis.
Alors pour être tout à fait honnête, Alain Tranois n'est pas encore autour de la table, mais on l'attend avec impatience. Je vais commencer en vous donnant la parole, Patrick Doutreligne, parce que je crois que la Fondation Abbé Pierre, elle est assez sceptique sur cette politique, en tout cas sur ce vœu présidentiel de voir tous les Français accéder à la propriété. L'accession à la propriété ne change pas forcément la vie, disiez-vous dans un entretien que vous donniez au journal Politis. En tout cas, ça ne va pas résoudre la crise de logement telle que ça apparaît aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que ce qui nous gêne, c'est de laisser croire que
un taux de propriétaires important dans un pays est synonyme de mieux vivre ou de développement économique important du pays. Les chiffres nous prouveraient plutôt le contraire. Les pays en Europe qui ont le moins de propriétaires sont des pays qui économiquement sont forts. La Suisse, l'Allemagne, la Suède.
Je peux donner des contre-exemples. La Suède, c'est 71% des Suédois sont propriétaires contre 58% des Français. Donc c'est pas ce que vous dites.
Pas la Suède. On doit
71%,
pas avoir les...
je suis désolé, j'ai les chiffres des Échos. 71% des Suédois sont propriétaires chiffres, comme 71% des Britanniques.
Si.
Oui, je crois que Danslou a l'air d'accord avec moi.
Je confonds peut-être la Suède et le Danemark, mais les chiffres en Allemagne et Suisse sont certains. C'est possible que je confonde entre les deux. En tout cas, c'est pas synonyme de mieux vivre, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, et en tout cas c'est sûrement pas non plus signe d'une démocratie performante, parce que quand vous prenez les taux de propriétaires en Albanie, au Kosovo et en Serbie par exemple, ils sont de 93 à 98%, et donc on voit bien qu'il n'y a pas de relation. C'est sûr que c'est une aspiration de la plupart des citoyens. Être propriétaire, ça paraît quand même plus intéressant à tout point de vue. Vous l'évoquiez tout à l'heure en disant vous voulez un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Le fait de pouvoir transmettre un patrimoine à sa descendance est non négligeable dans cet aspect-là des choses. Ce qui nous gêne aujourd'hui, c'est pas de s'appuyer sur la volonté populaire d'accéder à la propriété, tant mieux, et sans doute qu'on peut faire un effort en France pour augmenter le taux de propriétaires. Ce qu'il y a, c'est qu'on le fait à un moment qui nous paraît un petit peu difficile, c'est-à-dire que c'est au moment où on a une pénurie de 800 000 logements en France, qui est quand même très importante, c'est au moment où on a une flambée des prix sans précédent. Depuis 6 ans, les prix ont quasiment doublé sur tous les secteurs, que ce soit l'ancien, le foncier, le nouveau, on est presque à 100%. C'est au moment donc où on a une réelle inflation galopante des prix, où on nous propose un programme nouveau qui serait d'accéder à la propriété. Nouveau, en plus, ça ne l'est pas vraiment. L'accession à la propriété et les intérêts des emprunts, jusque 95. Jusqu'à ce que le gouvernement Juppé l'enlève, on pouvait déjà enlever les intérêts de
oui, en fait, c'est une vieille, c'est une ancienne mesure qui est remise en pratique.
Et quand on l'a enlevé en 95, le gouvernement qui l'a enlevé en 95 disait, c'est un effet d'aubaine, il n'entraîne pas davantage d'accession à la propriété, donc c'est un effet d'aubaine, donc supprimons-le. Alors peut-être que c'était pour faire des économies, sûrement d'ailleurs. Il n'empêche que les arguments de 95 par les mêmes personnes en place, sauf pour M. Juppé, puisqu'il n'y est plus, mais c'est les mêmes, je veux dire, les mêmes, la même majorité qui est au gouvernement, cet argument est un peu difficile. Le deuxième, et je terminerai là-dessus sur la réponse, c'est que là où on a une confusion complète, et c'est ce qu'on a expliqué l'année dernière dans le rapport Mal-Logement, ou cette année, au 1er février, c'est que le ménage moyen en France, ses ressources tournent autour de 2000 euros. Si vous ne voulez pas dépasser 25 à 30% de votre budget, ça veut dire qu'il faut trouver des logements entre 500, pour une famille, un couple avec 2 enfants, entre 500 et 650 euros. Eh bien, essayez de trouver, vous n'arrivez même pas à le trouver sur le locatif, et on voudrait nous faire croire qu'on le trouve en accession à la propriété, sûrement pas. Donc, voilà, on n'est absolument pas opposé à l'accession sociale, même pas à l'accession très sociale, comme des pays l'ont développé, je pense en Angleterre en particulier, mais le faire passer comme étant l'aspiration première et la priorité actuelle de la politique du logement, nous on estime que ça risque d'être au détriment du logement à loyer accessible, qu'il soit social ou privé, peu importe, c'est le problème numéro 1 en France actuellement, c'est la pénurie et le coût du logement.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, et ce n'est pas une question, je voulais juste donner mes sources quand je dis que 58% des Français sont propriétaires de leur logement contre 71% des Britanniques, 71% des Suédois, 78% des Belges et 84% des Espagnols. Je tire ces sources d'une enquête ERA 2006 qui s'appelle « Le marché européen de la transaction immobilière ». hier et que j'ai trouvé, j'ai pas été le chercher l'original, que j'ai trouvé reproduit dans le numéro 83 de Challenge. Voilà, c'était juste pour donner. Et effectivement, je vous donne raison du fait que on fait mieux que les Allemands qui ne sont que 42% à être propriétaires de leur logement. Voilà les chiffres dont je dispose.
Alors, je vais donner la parole à Christian Julien qui est en duplex d'Avignon avec nous, qui est économiste, parce que justement, Christian Julien, dans votre livre, si je vous ai bien lu, vous dites au contraire qu'une politique de rupture devra passer par l'accession à la propriété, surtout dans ses formes les plus sociales. Et vous rappelez qu'après tout, une très très grande majorité des Français désirent devenir propriétaires, donc il faut s'appuyer au contraire sur ce désir-là pour essayer de rendre le marché du logement plus fluide.
Ça n'est pas tout à fait ça.
Je pense compris,
qu'effectivement, 70% des Français...
Non, 90% des Français souhaitent devenir propriétaires.
On peut tourner autour des chiffres, mais enfin, en gros, les enquêtes un peu fines montrent qu'effectivement, il y a sûrement plus de 70% de Français qui souhaitent devenir propriétaires. Moi, je pense que l'essentiel n'est vraiment pas là. L'essentiel, c'est que tous les Français puissent se loger à des conditions de prix raisonnables, c'est-à-dire à des conditions par rapport à leurs revenus raisonnables, que ce soit en locatif et en accession. Et que si un jour l'accession doit se développer, elle se développera naturellement parce qu'effectivement les Français souhaitent plutôt accéder que louer, ça veut dire que le marché du logement fonctionnera bien. Moi, je trouve que le problème fondamental, c'est qu'il n'y a pas, vous l'avez dit en introduction, il y a le marché locatif HLM, il y a le marché privé, le marché de l'accession. C'est beaucoup plus compliqué que ça, malheureusement. Il y a une quinzaine de compartiments dans le marché immobilier. C'est comme un wagon de chemin de fer où vous avez 15 compartiments avec des portes fermées. Chacun est installé dans son compartiment. Chacun bénéficie d'une petite rente de situation, quelquefois petite, quelquefois moyenne, quelquefois grande. Et surtout, personne ne veut en bouger. Et donc, on est dans un système qui est relativement bloqué, où si vous avez la chance d'être dans un HLM PLUS, vous paierez un loyer déterminé. Dans un HLM PLAI, vous paierez un autre loyer. Dans un PLI, prêt locatif intermédiaire, vous paierez un autre loyer. Si vous êtes dans un prêt locatif HLM social, vous paierez un autre loyer. Dans un prêt locatif HLM privé, parce que ça existe, un autre loyer. Dans un prêt locatif foncière logement, un autre loyer, etc., etc. Vous avez en gros 15 statuts juridiques, juridico-économiques, dans le monde de l'immobilier, et ces 15 statuts juridiques représentent tous un petit avantage. Même celui qui a le moins d'avantages, c'est-à-dire celui qui est dans un logement purement privé, qu'il a négocié difficilement, parce qu'aujourd'hui les propriétaires demandent des choses invraisemblables pour louer un appartement, des cautions, des mois de loyer d'avance, etc. Même celui-là, s'il a la chance d'être là depuis 6 ou 7 ans, surtout il ne voudra pas en bouger, parce qu'il sait que s'il en bouge, le logement neuf, enfin nouveau, dans lequel il va rentrer, aura un loyer plus élevé. Donc pour moi, le problème fondamental, c'est celui de restaurer dans l'économie de l'immobilier un marché normal du logement. Alors c'est très compliqué, une fois qu'on a dit ça, il faudrait certainement 3 heures de réunion, donc je m'arrête
Et vous me reposerez peut-être d'autres questions là-dessus. Puisque Alain Tranois n'est pas là, alors je vais me faire son porte-parole, puisque dans un article qu'il donnait dans Libération, dans le journal Libération, il disait « mauvaise idée que l'accession à la propriété, parce qu'elle va plomber la mobilité des travailleurs ». Or aujourd'hui on ne jure plus que par ça, vous savez, ces travailleurs mobiles qui doivent se déplacer dans la France entière. Et alors là vous dites, alors là je suis absolument sûre de vous avoir bien lu, vous dites que ça c'est faux, hein, c'est une idée fausse.
Oui, c'est une idée fausse parce que c'est pas nécessairement une idée fausse parce qu'en fait, effectivement, en France, une transaction immobilière coûte nettement plus cher que dans la plupart des pays européens et en gros le double de ce que ça coûte aux États-Unis. Mais je dirais ça peut se réformer assez facilement si vous voulez. Si vous revendez votre logement au bout de 8 ans, au bout de 10 ans avec son crédit, avec un système comme le système des prêts hypothécaires aux États-Unis, vous revendez son logement avec votre prêt, les frais sont extrêmement faible et la difficulté ne sera pas très grande. Vous savez, aujourd'hui, trouver un nouveau loyer en locatif, un nouveau logement, je veux dire, en locatif privé, c'est très difficile parce qu'encore une fois, les propriétaires tiennent la dragée haute aux locataires. Vous avez 2 500 000 Français qui déménagent chaque année. Il faut se mettre ce chiffre en tête. 2 500 000 personnes bougent chaque année. Ces personnes, où vont-elles? Elles ne peuvent pas aller dans un HLM. on en construit apparemment, on en finance 80 000 par an, on n'en construit même pas 50 000. Elles peuvent aller dans un HLM libéré, mais on sait très bien que le taux de rotation dans les HLM est 4 fois plus bas que le taux de location dans le taux de rotation dans, la, dans un logement privé. Ils ne peuvent pas acheter pour beaucoup d'entre eux parce qu'effectivement les prix ont trop monté. Donc ils se précipitent tous, en gros aujourd'hui 1 300 000, 1 400 000 dans la location privée. Et la location privée grimpe. C'est pourquoi je crois que vraiment encore une fois ce qui est fondamental c'est de réunifier le marché du logement et d'essayer de décloisonner, d'introduire de la mobilité et tout naturellement après les gens ben, ils iront dans l'achat s'ils peuvent acheter, ils resteront dans la location s'ils ne peuvent que louer, etc. Mais voilà.
Donc c'est... à condition que l'achat ne soit pas aussi une façon de bloquer les gens et qu'en effet on fasse disparaître certaines taxes et fiscalités qui sont aujourd'hui peut-être un petit peu décourageantes quand on veut changer en tout cas.
Mais encore une fois, c'est pas facile de changer pour trouver un locatif, vous savez.
Oui, ou alors on pourrait revendre pour acheter ailleurs.
Oui, absolument.
Alors, Jacques Donzelot, vous êtes sociologue. Je voudrais savoir comment est-ce que pour vous, justement, la question de la propriété joue ou pas dans ce que vous avez analysé. Je rappelle que vous avez écrit un article qui avait fait grand bruit. Je crois qu'il est repris en partie dans le livre que citait Brice tout à l'heure sur la ville à trois vitesses. Hein, vous avez travaillé sur la spécialisation des espaces aujourd'hui et la par classe sociale, hein, gentrification, relégation, périurbanisation. Est-ce que la question de la propriété, elle intervient de manière pertinente dans cette spécialisation des espaces. Est-ce que finalement un programme d'accession à la propriété pourrait changer quelque chose à cette ghettoisation finalement dont nous sommes aujourd'hui les témoins ?
À cette logique de séparation, probablement pas, dans la mesure où elle en est le principal moteur. Si on considère que la population qui aspire à la propriété est essentiellement celle qui se dirige vers des lotissements, qui fuit donc, dans la mesure du possible, se fait depuis un bon moment, les immeubles locatifs, les grands ensembles, etc. Ça a commencé au début des années 70 pour de bon. C'est-à-dire c'est des gens qui, pour la plupart, voulaient la même chose que ce qu'ils avaient dans le grand ensemble, à savoir un appartement confortable, hygiénique, moins la mixité, c'est-à-dire la promiscuité avec plus pauvre que soi, plus la verdure et le sentiment de propriété. Et sans doute que ce processus est le plus ample. C'est-à-dire dans le devenir de la ville, la périurbanisation est le principal facteur. Nous n'en sommes pas encore au niveau atteint par les États-Unis, mais c'est quand même la ligne de force. Ce qui se construit le plus, ce sont des logements individuels, comme on dit, donc des pavillons, des petites maisons, de plus en plus en lotissement, c'est moins cher. Voilà, mais s'agissant de... On parle du devenir de la ville. Bon, les raisons pour lesquelles les gens opèrent ce départ dans le périurbain, quand on les interroge sur le pourquoi ils font cela, c'est très complexe. C'est toujours pour les enfants, pour que leurs enfants soient élevés dans un cadre paisible, et ils obtiennent généralement cela au prix, c'est vrai, d'un éloignement assez grand par rapport à leur lieu de travail, donc de la nécessité d'acheter des véhicules, d'une surconsommation d'énergie très coûteuse, très, très polluante, et d'une irritation consécutive devant leur niveau de vie, qui est devant l'insuffisance de leur niveau de vie par rapport à toutes les dépenses qu'occasionne, un, l'achat à la maison, deux, l'achat de véhicules, trois, le fait d'être éloigné de tout et donc de devoir sans cesse bouger. Et donc, ils sont très furieux. Et ces gens très furieux ont voté Front National longtemps. Et maintenant, grâce à Nicolas Sarkozy, il vote à droite.
Oui, c'est assez curieux. C'est au moment où on voit le thème de la vie chère intervenir qu'on constate que les achats continuent. L'immobilier continue à marcher. Le marché immobilier continue à se porter extrêmement bien. Donc c'est vrai que ça peut être un peu paradoxal.
Est-ce que justement, derrière la question une France de propriétaire ou pas, se pose pas tout simplement une question politique, électoraliste, tout simplement, parce qu'on voit bien qu'effectivement, les périurbains votent à droite, alors que les centres-villes boboisés, gentrifiés, curieusement, vote à gauche. Et on l'a vu notamment aux dernières élections. Et quant aux relégués, pour reprendre votre classification, ça se partage, mais enfin, en gros, ils votent plutôt à gauche aussi. Donc, je veux dire, est-ce que derrière le rêve de Nicolas Sarkozy d'une France de propriétaires, il n'y aurait pas l'idée d'une France d'une France périurbanisée à l'américaine, avec des suburbs bien tenus et tranquilles et paisibles, qui voteraient largement à droite? Et le fait que la gauche ne soit pas très sensible à ces arguments démontrerait simplement qu'elle n'a pas envie de voir sa cliente électorale traditionnelle partir vers ses centres-villes, vers ses périurbains.
C'est une hypothèse plausible quant à l'intelligence politique de Nicolas Sarkozy que d'avoir perçu ce qu'était son électorat et d'avoir de l'avoir ainsi récupéré durablement en valorisant évidemment le statut de propriétaire et peut-être en visant un mois de vue, mais c'est surtout d'avoir décoincé cette population qui se trouvait menacée entre, d'une part, la mondialisation par le bas qu'ils avaient fui, celle des cités, cette population de minorité ethnique, ils ne voulaient pas la promiscuité parce qu'elle était trop nocive pour eux, pour leurs enfants, pour la scolarité de leurs enfants, et d'autre part, la mondialisation par le haut, celle des bobos, qui les rejettent, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en faire partie. Et donc, ils se sentaient dans une situation. Et on pourrait dire que, d'une certaine manière, Nicolas Sarkozy les a libérés de la mondialisation en leur disant qu'il allait en faire son affaire, en faisant de tous les Français des gens comme eux, et non pas des gens qui allaient les menacer par les deux bouts.
Patrick Doutreling, juste avant de donner la parole à Claire Lévy-Vrelan, vous rappeliez dans cet article que je citais tout à l'heure que l'idée de faire accéder les couches moyennes et populaires de la population à la propriété, c'est une vieille idée en fait, hein, depuis le 19e siècle.
Bien sûr, Claire Lévy-Vrelan parlera mieux que moi sur l'histoire du logement, mais c'est évident que dès le début du 20e siècle, les premières cités, c'est le patronat qui les a créés au début du 20e siècle pour avoir les ouvriers d'abord près de l'entreprise, ce qui était quand même mieux pour eux, donc les houillères, le textile, les ports. Et deuxièmement, parce que quand vous lisez ce qui se passait à l'époque, c'était pour éviter qu'ils traînent dans les cafés, ils allaient pouvoir rentrer dans leur maison, s'occuper de leur jardin et s'occuper de leurs enfants. Donc dès le début, on a eu une image de la propriété et voire de la maison individuelle, comme l'expliquait Jacques Dongelot. Et si, alors comme il n'y en a plus en ville, on va de plus en plus loin les construire, sans mesurer d'ailleurs tous les effets nocifs en termes de pollution, en termes d'économie, mais ça a été exposé. Mais bien sûr qu'il y a une idée politique, comme les banlieues est de nombreuses villes ont été aussi des enjeux en construisant du logement social et beaucoup de logements sociaux. Il y a les élus de l'époque, Parti communiste ou la gauche, étaient persuadés qu'en construisant beaucoup de logements sociaux, ils avaient aussi une clientèle captive des lecteurs et que donc il y avait des intérêts convergents. Le 93 est vraiment l'exemple significatif où il y a la convergence de Paris qui est bien content de se débarrasser de ses pauvres et de ses classes populaires et le Parti communiste qui est bien content de les accueillir et d'avoir un électorat qui leur semble qui est fidèle. L'histoire lui prouvera que ce n'est pas tout à fait vrai.
Alors Claire Lévy-Vrelan, peut-être sur cette idée justement sur l'arrière-plan idéologique de ce fantasme des propriétaires.
Hein. Bien sûr. Moi, j'avais envie de remettre un petit peu la discussion sur la question justement des idées des représentations. Je pense qu'on est en plein dans un fantasme. Effectivement, peut-être que c'est pour déculpabiliser ces classes moyennes, périurbaines, qui sont censées être un petit peu le modèle à suivre. Mais qui ces politiques sont censées faire devenir propriétaires. C'est quand même comme ça qu'il faut poser la question. Alors, c'est drôle que je le dise moi parce que c'est
vrai. En fait, on attendait Alain Tranois, mais en fait, il ne pourra pas venir. Il est retenu dans une une réunion et il est économiste. Il a fait un papier sur le sujet. C'est pour ça qu'on l'attendait un petit peu. Mais je vous laisse le faire du même coup.
Écoutez, alors moi, j'aurais envie de remettre un petit peu en perspective historique toute cette histoire de la propriété parce que je pense qu'on est effectivement dans un slogan. Qui va bénéficier de ces mesures? C'est la question que vous posiez au départ. Moi, j'ai envie de demander d'abord de quelle crise il s'agit. Patrick Doutreling parlait de crise. Ça fait un moment qu'on parle de crise du logement. Il ne faudrait pas qu'on se trompe de crise. Et je voudrais citer un chiffre. Bon, je ne suis pas économiste et parfois je me trompe même dans les zéros, mais je vais essayer de faire un effort. 100, 30 milliards d'euros quand même de chiffre d'affaires. L'immobilier, c'est un énorme secteur. Et qui va bénéficier de ces incitations fiscales? C'est quand même une question qu'on peut se poser. 860 000 transactions annuelles, vous l'aviez dit tout à l'heure, le secteur immobilier se porte très bien, génère d'énormes profits. Ça sera ma première remarque. Alors, l'autre aspect de la crise, évidemment, c'est ce que dit et répète la Fondation Abbé Pierre tous les ans, dans son rapport, ces millions de mal logés, hein, on peut en compter entre 1 et 3 millions. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail de la catégorisation, mais en tout cas, il y a bien une crise de l'offre, il y a bien une crise de l'accès au logement, et je pense que c'est plus intéressant de le formuler comme ça qu'en termes de propriété. Alors, par contre, si on veut parler de propriété, moi, je voudrais remettre en cause un peu cette espèce de paradigme universel du bien fondé de la propriété. D'abord, est-ce que c'est une aspiration de tous? Non. Il faut quand même aller contre cette idée reçue. Le secteur locatif est un secteur qui est important. Et quand tout à l'heure, effectivement, on mentionnait les taux de propriété dans différents pays européens, parmi les pays des Balkans ou du sud de l'Europe, effectivement, il y a des taux de propriété très forts. Ça n'est en rien un indicateur favorable pour, disons, la santé économique et sociale du pays.
Vous ne pensez pas que le secteur locatif se porte bien par défaut, parce que simplement...
Non, je ne le pense pas. Et si vous permettez, je vais poursuivre. Donc, je ne pense pas que ce soit une aspiration de tous. Alors, juste une petite anecdote.
90%, c'est quand même beaucoup. Écoutez, les sondages montrent que 90% des Français souhaitent être propriétaires.
Oui, alors c'est peut-être vrai aujourd'hui,
bien sûr. Pour une fois qu'on a des politiques de part et d'autre, du reste, qui veulent bien prendre en compte les aspirations des Français plutôt que d'avoir raison à leur place, c'est peut-être une bonne chose que de les écouter.
Alors, je vais vous donner...
100% des Français voudraient être plus riches et
bah
avoir
oui,
une bonne santé.
Ça serait une bonne chose qu'effectivement on les écoute dans ce domaine aussi et que le pouvoir d'achat remonte quelque peu.
Si vous voulez... Oui, enrichissez-vous. Ça fait penser quand même à des époques napoléoniennes.
Bah,
excusez-moi.
Par le travail et par l'épargne.
Alors, enrichissez-vous par le travail et par l'épargne, hein, ça a plus d'incidence. Alors, je voudrais reprendre donc cette histoire de l'aspiration de tous. Au début des années 60, non, s'il vous plaît, historiquement, ça n'est absolument pas un universel. J'avais une petite anecdote que je vais quand même vous donner sur la question, que je tiens de mon collègue Alain Faure, avec qui on a écrit le livre. Un patron fin 19e siècle, début 20e, demande à son apprenti « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?»« Je voudrais tellement être un locataire. » Bon, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'à l'époque, quand on était pauvre, on n'avait même pas de meubles. Maintenant, on veut avoir des murs. Donc les aspirations, elles changent. Et quand vous dites 90% aujourd'hui, moi je peux vous dire 100%, ça ne me dérange pas. Quand j'interroge mes étudiants qui ont 19 ans, 20 ans, 22 ans, ils veulent tous être propriétaires. Mais moi, je ne pense pas que ce soit un signe de progrès. Je pense que c'est un signe, au contraire, de malaise social. Et je voudrais en venir à un autre point, si vous permettez, qui est cette illusion de la propriété comme protection. On sait très bien que si les incitations s'adressent à des gens qui sont limites au niveau de l'endettement et qui vont s'engager au plus grand bénéfice de ceux qui prêtent ou de ceux qui construisent, qui vont s'engager dans des endettements de 20 à 30 ans et on peut même dire plus puisque maintenant on envisage des endettements sur plusieurs générations, quel va être le bénéfice au final de cette accession forcée? Et je dirais que, ça je le reprends de Catherine Bonvalet qui a beaucoup travaillé sur la question à l'INED, on peut très bien être propriétaire par force et locataire par choix. Il ne faudrait pas inverser les choses. Alors, moi, je mets en question cette aspiration de tous. Vous savez, il y a des choses consensuelles. Effectivement, tout le monde veut être riche, tout le monde veut de la sécurité, personne ne veut vivre dans l'insalubre. Mais derrière les consensus, il faut un peu chercher qu'est-ce qui fait, quelles sont les forces sociales qui font que, bon, on contraint les gens. La dernière chose, c'est... Est-ce que c'est à la portée de tous? Voilà un mirage extraordinaire qui nous est mis là sous les yeux. Alors, il y a sans doute à encourager une accession. Pourquoi pas? Moi, je ne me bats pas contre la propriété. Mais en tout cas, il y aurait un danger à, par ailleurs et en creux, contribuer à une espèce de mise en concurrence de la propriété et de la location, et en particulier de mettre en cause le secteur social, qui est plus que jamais nécessaire. Il y a quand même 10 millions de Français qui habitent dans le logement social, et le logement social ne se porte pas forcément très bien. Donc voilà, c'était des éléments un petit peu de contexte.
Alors vous posiez une question à l'instant qui était qui sont ceux qui achètent, qui sont ceux qui veulent devenir propriétaires. Moi j'ai un élément de réponse déjà, ben c'est les jeunes. En 5 ans, la part des emprunteurs de moins de 30 ans est passée de 20 à 30% sur l'achat de logement. Donc ça montre bien que c'est les jeunes qui achètent. Et pourquoi achètent-ils? C'est un, je citais un article que j'ai trouvé dans Enjeu les échos. Le PDG de Kaufmann & Broad explique « Les jeunes veulent acheter pour assurer leurs vieux jours ». D'après les professionnels de l'immobilier, il y a deux raisons qui poussent aujourd'hui les Français à vouloir devenir propriétaires. La première, c'est qu'ils ne font pas confiance dans les systèmes de retraite pour leur permettre d'avoir des retraites convenables. Comme ils savent que ces systèmes de retraite sont en déficit chronique et bientôt en banqueroute, ils préfèrent investir dans la pierre, sachant que c'est le meilleur rendement possible et que le jour où ils seront à la retraite, ils pourront toujours vendre leur maison pour en acheter une plus petite.
Donc c'est bien un signe de malaise social, comme le disait.
C'est un signe de malaise social, je suis d'accord. Deuxième raison donnée par les professionnels de l'immobilier, c'est l'explosion du divorce et la volonté des pères. Et ça, c'est vraiment une question pour un sociologue. Jacques Donzeau, la question est que les pères veulent maintenant, vous savez bien, la garde partagée. Et par conséquent, les pères, quand les ménages divorcent, le père est obligé, souvent c'est lui qui s'en va. Autrefois, il prenait un studio. Maintenant, comme il a deux enfants, il ne peut pas recevoir ses enfants dans son studio. Donc, il cherche lui aussi à acheter un 2, voire un 3 pièces. Et c'est ça, c'est les deux raisons qui, paraît-il, provoquent ce boom continuel de l'immobilier et la volonté d'acheter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Jacques Donzeau, ou est-ce que vous en voyez
d'autres? Oui, comment ne pas être d'accord quand on a été divorcé soi-même et qu'on a vécu ces problèmes que vous décrivez, ce serait vraiment de mauvaise soi. Mais tout de même, dans les raisons qui portent à être propriétaire, elles ont toutes été énumérées. Il y a l'individualisation des conduites, donc le divorce. Il y a l'insécurité qui fait qu'on veut se rassurer pour ses vieux jours. Il y a l'enrichissement aussi. On est plus riche. Et quand on est plus riche, on veut concrétiser cette richesse. On veut la voir, la contempler, se dire c'est à moi ça. Bon. C'est pas le même sens que être possédant dans l'ancien régime industriel, parce que il y a quelque chose qui a changé, qui n'est pas de l'ordre de la psychologie, mais qui est peut-être de l'ordre du mode de gouvernement. Le temps où l'on faisait beaucoup de logements sociaux, où l'on en construisait massivement, surtout dans le nord de l'Europe. Comme vous le savez, Angleterre, France, Hollande, pas trop Belgique, pays scandinaves, Allemagne, c'est un peu différent. Enfin bon, les modalités sont différentes. Bon, on en a construit beaucoup. On construisait des logements parce qu'il s'agissait de créer un contrepoids à l'employeur. Il fallait que l'ouvrier ait, qu'on lui fournisse un logement pour qu'il puisse travailler. Le logement était en quelque sorte quelque chose qui faisait partie de la protection sociale du travailleur par rapport à l'employeur. Maintenant, et cela faisait partie de cette idée qu'il fallait équilibrer l'échange. Pour que le libre-échange ne soit pas mis en question, il fallait que les parties soient aussi égales que possible, pour être libres.
Donc, vous voulez dire pour échapper à l'époque où les patrons étaient aussi propriétaires des logements de leurs ouvriers,
hein, par exemple, ou bien où les ouvriers étaient soumis aux vautours, comme on appelait les propriétaires immobiliers, spécifiquement parlant. Bon, et cette manière d'éviter aux ouvriers de perdre tout leur salaire dans le paiement d'un loyer pour un misérable garni, ou d'être sous la coupe du patron plutôt qu'en capacité de lui résister, cela faisait partie de la protection. C'était une époque où le social, c'était ça. Et le social s'opposait à l'économique et entrait en combinaison avec, comme vous le savez, Keynes, Ford, j'arrive, je saute quelques décennies, j'arrive à la situation actuelle où on gouverne non pas tellement au nom de l'échange, mais au nom de la concurrence. C'est la concurrence, et la concurrence, ça se produit. La concurrence, ça suppose que tout le monde, c'est pas égalisé, c'est pas l'idée qu'il faut que l'échange soit égal, c'est l'idée qu'il faut que les parties soient dans une certaine égale inégalité. C'est-à-dire qu'elle soit, pour être en concurrence, s'il n'y a pas une certaine inégalité, il n'y a pas cette tension propice à la concurrence. Alors, c'est là où, en même temps, on retrouve la question du logement social, mais d'une toute autre manière. Il ne s'agit plus d'équilibrer le pouvoir du patron par le logement social, par la protection sociale. Il s'agit de lutter contre l'exclusion. Le logement social sert et ne sert plus qu'à cela, lutter contre l'exclusion. Tout comme la plupart des politiques sociales. Elles changent, elles se modifient à partir de cet impératif, parce que ce qui menace la concurrence, ben, c'est ceux qui n'en font pas. C'est ceux qui ne sont pas dans la concurrence, ceux qui sont exclus. Quand on est exclu de la concurrence, on n'est pas dans le coup, c'est pas bien. Donc gouverner...
En plus, on est potentiellement dangereux.
Ben, voilà, donc gouverner, c'est faire en sorte que tout le monde soit dans la concurrence. Et c'est pour ça que l'on confie le logement social résiduel, puisqu'il s'agit de le destiner de plus en plus exclusivement aux pauvres, à ceux qui n'ont pas d'espoir crédible d'accéder à la propriété, d'en confier la gestion à des organismes humanistes, humanitaires, bienveillants, qui vont les accompagner, à les aider à s'insérer, à acquérir le sens d'abord du bien logé, et ensuite peut-être un jour de l'acquise du possédé.
Alors, je rappelle que nous sommes en train de discuter de ce vœu présidentiel d'une France de propriétaires et que vous venez d'entendre la belle analyse de Jacques Donzelot, qui est sociologue, que nous sommes également avec Patrick Doutreling, qui est délégué général à la Fondation Abbé Pierre, en compagnie également de Claire Lévy-Vrelan, qui est professeur de sociaux à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Et nous sommes en duplex depuis Avignon avec Christian Julienne, qui est économiste. Alors, peut-être parce que finalement, on n'a pas fait cet effort d'analyser vraiment la mesure qui est proposée dans le paquet fiscal qu'on nous promet, qui devrait être voté là très vite, hein, dans ce mois de juillet. Peut-être qu'on pourrait y revenir quelques instants pour comprendre bien à qui il s'adresse et si même il va avoir un réel impact sur l'accès à la propriété, y compris de ceux à qui elle est destinée. Parce que souvent, il y a un mécanisme assez simple que les économistes mettent souvent en lumière, Christian Julienne, qui est que quand l'État donne des aides, elles sont immédiatement absorbées, anticipées par le marché. On a vu ça avec l'aide au logement, c'est-à-dire immédiatement après, les loyers ont augmenté. Est-ce qu'on ne risque pas de voir le même genre de système dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait un effet de surchauffe, les propriétaires dont les prix qu'ils proposaient commençaient à stagner légèrement vont être finalement incité à les remonter légèrement, et puis cette bulle spéculative autour de l'immobilier risque de durer encore quelques années de plus.
Vous savez, on peut le dire de beaucoup de choses. À peu près toutes les mesures gouvernementales ont toujours un aspect plus ou moins effet d'aubaine et plus ou moins, sont toujours plus ou moins exploitées par les gens les plus habiles et les plus forts pour en profiter. Moi, je ne crois pas que c'est ça le problème, et j'aurais voulu intervenir plusieurs fois dans la discussion, parce qu'il me semble qu'on s'est beaucoup écarté de l'économie de la construction au profit de choses tout à fait passionnantes, hein, qui sont les interprétations philosophiques, sociologiques et politiques de la chose, puisqu'on en a fait très vite une affaire Le Pen-Sarkozy et quelques autres. Mais je pense que vraiment, il y a eu des erreurs de dite. Premièrement, qui achète aujourd'hui ? Enfin, j'ai là des chiffres sous les yeux qui sont des chiffres rigoureusement indubitables. Ce sont les chiffres fournis par les banques qui sont le club des banques qui font des prêts d'accession sociale. Il y a 6 grandes banques qui font des prêts d'accession sociale, les caisses d'épargne, etc. Et qui donc font des prêts d'accession sociale avec un fonds de garantie qui est important, qui fonctionne bien aux États-Unis, qui n'a jamais fait beaucoup de publicité en France, pour garantir en gros les gens qui auraient des impayés. Les gens qui ont acheté en prêt d'accession sociale en 2004, hein, j'ai pas les chiffres les plus récents, mais j'ai les chiffres sur une dizaine d'années et les variations sont très très faibles. On a parlé du Français moyen qui gagne 20 000 euros de revenus. Eh bien, les gens qui ont acheté en prêt d'accession sociale, il y en a 83% qui sont en dessous de ce chiffre. Il y en a 15% qui sont en dessous de 9 000 euros. 15% qui sont en dessous de 9 000 euros. Les prêts d'accession sociale, je vous rappelle, ce sont les prêts qui sont en dessous de la catégorie qu'on appelle prêts à taux zéro, c'est-à-dire qui sont donnés vraiment à des gens de revenus très faibles. Vous avez ensuite les gens de revenus un peu intermédiaires qui sont les gens qui empruntent avec ce qu'on appelle les PTZ, les prêts à taux zéro. Même chose, j'ai sous les yeux les chiffres PTZ émis en 2004. Eh bien, si vous prenez ce chiffre de 20 000 euros, je prends un chiffre un petit peu plus élevé, 22 000 euros. Vous en avez 30, 50, 71% qui sont en dessous de ce chiffre. Donc quand on dit on ne peut pas acheter, on a déjà bien du mal à payer un loyer de 500, 600, 700 euros, c'est, excusez-moi, mais c'est tout à fait inexact, c'est un raisonnement très parisien et très Île-de-France. Dans les 4 cinquièmes des villes françaises, les loyers se promènent effectivement aussi entre 400 et 700 euros, mais l'accession à la propriété en PASS ou en PTZ, bien sûr, de préférence, mais les parents ont un petit apport personnel. Je ne parle pas du pourcentage d'apport personnel là-dedans, qui joue un peu, mais qui n'est pas principal. La tentation normale d'un jeune ménage qui a entre 27 et 30 ans, qui se sont installés ensemble à 25-26 ans, qui ont un premier bébé à 28-30 ans, c'est effectivement d'acheter, c'est pas de continuer à louer. Alors, essayons de ne pas faire trop d'idéologie, je ne crois pas que c'est parce que M. Sarkozy veut absolument avoir des électeurs de droite qui développent la question à la propriété, c'est parce que c'est là. Effectivement, alors, deuxièmement, si on a beaucoup parlé de sociologie, reparlons-en rapidement. La sociologie a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, on ne pose pas des questions simples du genre « est-ce que vous aimez mieux une maison individuelle ou un immeuble ? Est-ce que vous aimez mieux être propriétaire ou locataire ?» Il y a des études extrêmement fines qui sont faites sur des questionnaires qualitatifs ou qui sont faites avec des batteries de questions. Vous connaissez tous, enfin il y a beaucoup de sociologues autour de la table, les gens qui pratiquent cette discipline. On ne peut pas éviter la réalité. La réalité, c'est que toutes ces types d'enquêtes depuis 30, 40 ans, depuis 50 ans, disons qu'elles ont été très perfectionnées depuis une trentaine d'années. Mais on retrouve à peu près la même chose il y a 50 ans, 40 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, les deux tiers, pour ne pas dire les trois quarts, des ménages veulent acheter. Les deux tiers, pour ne pas dire les trois quarts des ménages, veulent acheter une maison individuelle. Dire, excusez-moi un peu brutalement, monsieur Donzelot, comme vous avez achevé une phrase à un moment en disant, bah, c'est Le Pen, c'est ce que voulaient les électeurs du périurbain, c'était les électeurs de Le Pen, Sarkozy les a récupérés. Non, non, les électeurs de Le Pen n'ont jamais dépassé 15% en France, sauf exceptionnellement 18% à cette fameuse année 2002. Ces 15%, ça ne représente pas les acheteurs de maisons individuelles. Les acheteurs de maisons individuelles sont des gens qui ont envie d'acheter une maison individuelle ou de vivre en location dans une maison.
Ils ont aussi des convictions politiques.
Il y a des quantités de gens qui ont des convictions politiques et qui votent à gauche. Moi, je suis dans le Vaucluse et j'y travaille maintenant à la moitié de mon temps. Et je vous assure que il y a beaucoup de gens.
Ce que je veux dire, c'est que le rapprochement entre un habitat et un vote n'est pas un rapprochement en soi idiot. C'est juste ce que je veux dire.
Il y a l'article de Jacques Lévy qu'on avait ici hier dans Libération la semaine dernière qui montrait très clairement que le périurbain, justement, a voté à droite. C'est assez indéniable.
Mais bien sûr, mais la corrélation, vous savez, entre la naissance des bébés et les cigognes, existe aussi. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous constatez un vote et un habitat que vous avez une corrélation. C'est beaucoup plus compliqué que ça, calcul de corrélation.
Oui, mais enfin, il y a des gens...
Je suis statisticien ou de métier, je vous assure que ce n'est pas en rapprochant deux chiffres qu'on peut certifier qu'il y a une corrélation.
Enfin, on s'appuie quand même sur des travaux de géographes qui sont spécialisés dans les questions politiques. Mais enfin, je voudrais redonner la parole à Patrick Doutreling, parce que vous avez dit, enfin, si je vous ai bien compris, que l'accès à la propriété, ce n'était pas forcément les ménages les plus aisés et qu'il fallait
Moi, j'ai sous les yeux les prêts d'accession sociale et les PTZ.
Alors justement, vous nous avez donné...
sur quelques centaines de milliers
vous
chaque
nous
année.
Avez donné
non, pas quelques centaines.
Et je voyais Patrick Doutreling qui n'était pas complètement convaincu.
Ben non, parce que vous donnez des pourcentages qui sont faussés, puisque vous donnez des pourcentages sur le prêt d'accession sociale qui sont justement des prêts réservés à des gens qui sont en dessous de certaines ressources. Donc, évidemment, vous allez retrouver des chiffres à 75-80%. Il faut regarder de plus structurellement, et un économiste comme vous devait le savoir. Il y a encore 5 ans, à peu près 65% des logements qui sortaient en France sortaient avec une aide de l'État pour soit le locatif, soit la construction, et donc qui étaient orientés avec une contrepartie en termes de soit montant de loyer, soit d'intérêt d'emprunt, ou en tout cas d'annuité en dessous d'un certain plafond. Maintenant, on est descendu à moins de 40%, c'est-à-dire que c'est le marché qui fait monter les chiffres à 410 000 production, c'est essentiellement le marché, c'est bien sûr les taux de crédit qui sont historiquement faible, bien évidemment, et c'est ça qui a fait énormément augmenter, ou les avantages fiscaux du type d'eurobien. Borloo populaire, on verra s'il prend ou s'il prend pas, mais on est passé de 30 ou 40 000 logements locatifs en investissement du temps de la période Besson à 76 000 du temps de Dorobien, parce que on a donné un avantage fiscal extraordinaire, sans aucune contrepartie sociale, et bien sûr que ça fait monter les prix.
Je suis tout à fait de votre avis, je pense que c'est une erreur complète, c'est ce qu'on appelle un système de niche fiscale.
Exactement.
C'est le contraire de l'accession à la propriété pour les particuliers.
On est d'accord, donc, non, c'est, ce que j'étais pas d'accord, c'était, quand vous prenez des pourcentages, si vous prenez des pourcentages sur une catégorie de prêts qui sont justement réservés à des personnes, ça trompe. Ce qu'il faut prendre, c'est tout ce qui fait monter actuellement la production en France, c'est deux choses. Prioritairement l'accession à la propriété, ça on le dit pas assez, c'est-à-dire qu'on est déjà sur une très forte accession à la propriété en France, plus de 230 000 accessions à la propriété par an depuis 2 ans, donc c'est déjà très fort. Et le deuxièmement, c'est cet avantage fiscal inconsidéré qui est le Dorobien, qui a été fait pour faire partir le bâtiment. Là-dessus, ça a marché, mais qui a fait flamber les prix et qui a dérégulé le système économique dans certaines villes. Et ça, tout le monde s'en plaindra, y compris les accédants.
Alors, Christian Julien, en tout cas, vous nous donnez du grain à moudre, puisque tout le monde veut prendre la parole après vous. Alors, Claire Lévy-Volant.
Oui, moi, j'aurais juste voulu, encore une fois, peut-être... insister sur le lien, en effet, entre les choix, disons, techniques, hein, d'ordre fiscal ou autre, en matière de logement, et puis des choix politiques plus généraux. On remarque quand même que la tendance, elle est un petit peu la même dans toute l'Europe. Jacques Donzelot, tout à l'heure, parlait de résidualisation, c'est le terme employé par les Anglais, pour décrire ce phénomène qui touche le logement social et qui fait qu'il est réduit à une peau de chagrin, donc par le right to buy, par la vente, etc. Donc on voit bien des convergences en Europe qui sont un petit peu inquiétantes, parce que où vont aller loger les gens qui ne peuvent pas acheter ? C'est pas une question banale, c'est une question essentielle. Et je pense qu'il y a deux versants un petit peu dans les propositions actuelle en politique du logement en France. D'une part, effectivement, cet encouragement à l'accession à la propriété avec tous les effets pervers qu'il transporte, et y compris sur la protection. Et d'autre part, un abandon des politiques en faveur du logement social.
Alors là, en même temps, ce matin, la capacité de financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine a été portée de 11 milliards à 12 milliards d'euros par Christine Coutin.
Alors, la rénovation urbaine, c'est quelque chose, on pourrait peut-être faire une émission là-dessus, parce que c'est une énorme chose. Je pense que, c'est très difficile de ça ne crée pas de logement, je dirais même que ça en détruit. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout à un pour un, ça encore. Le dernier rapport de la Fondation le montre, mais pas seulement. On n'est pas du tout à un pour un, ça veut dire qu'on démolit un logement social pour en construire un autre. On est beaucoup moins. À chaque fois qu'il y a des opérations de rénovation urbaine, il y a toujours un déficit de logement, et en particulier pour les plus modestes. Ça, c'est vrai depuis le début du 19e siècle. Alors, ne mettons pas, ça serait un petit peu rapide et illusoire de dire, voilà, il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la rénovation urbaine, ce qui est parfaitement exact, hein. Ce sont encore des milliards, je ne sais pas exactement combien, mais
oui,
beaucoup,
il y a 12 milliards, hein.
Beaucoup,
l'effort porté à 12 milliards.
Mais qui sont alors à questionner d'une autre manière aussi, du point de vue des quartiers, comme on dit, puisqu'on a aussi une espèce de discrédit qui est mis sur certains secteurs où on dit qu'il n'y a rien d'autre à faire que de démolir. Et au final, c'est quand même la destruction d'un certain nombre de logements sociaux. Donc moi, je ne l'ai pas inventé, c'était dans le programme de l'actuel président, de dire qu'il faut aller doucement vers une résorption et une vente partielle du parc social. Donc on est bien sur une politique qui a ces deux versants-là, et il ne faudrait pas en analyser un sans voir l'autre.
Mais madame, juste une seconde, il y a des effets pervers dans l'accession à la propriété. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des effets pervers dans le système HLM ? C'est une question que je vous pose.
Ah bah écoutez,
Moi je vous donne une réponse très rapidement.
Ah bah si vous posez la question et que vous y répondez, on va gagner du temps.
On va gagner du temps, mais après bien sûr j'attends la vôtre. Dans le système HLM aujourd'hui, vous n'avez pas de baux stricto sensu, vous avez un engagement de location à vie. si on vous donne un logement HLM à 35 ans, enfin, pas si on vous le donne, si on vous octroie un logement HLM à 35 ans, vous pouvez le garder jusqu'à 80 ans. Vous pouvez même le transmettre à vos enfants si les enfants y habitent au moins 5 ans et s'ils sont en dessous du plafond de revenus. Vous connaissez les plafonds de revenus du secteur HLM, ils sont de 73%
du revenu de la population. On va être à nouveau plusieurs réagir. Je pense que, en plus, c'est vrai que c'est faux. Le droit au maintien dans les lieux est une longue histoire semée de, très compliquée et très intéressante à analyser, puisqu'effectivement, comme l'a dit Jacques Doncelot, au départ, le patron donnait le logement et pouvait le retirer si le contrat de travail s'arrêtait. Donc c'est un progrès social considérable que d'avoir garanti le droit du locataire. Maintenant, que ces droits soient particulièrement garantis dans le logement social, c'est un fait et c'est peut-être une bonne chose. De là à dire qu'il est transmissible, non, c'est la propriété qui est transmissible. Donc vous plaidez pour la propriété et une protection à travers la propriété, soit, mais il faut bien voir que le logement social est aussi une protection et protège ceux qui en ont le plus besoin. Alors maintenant, les effets pervers du logement social, non, je pense que ce n'est pas une bonne manière de poser la question. On peut dire plutôt comment faire mieux pour protéger ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter. Il y a certainement à réformer la gestion et les façons de faire et les façons de du parc social et des bailleurs sociaux. Mais c'est peut-être une autre question.
On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même dans les logements sociaux aujourd'hui et qui auraient les moyens d'être dans du parc locatif privé.
Oui, mais il faut enlever deux mythes.
Les amis des municipalités, par exemple.
Non, mais il faut, alors ça, c'est clair qu'il y a eu toutes des périodes, et en particulier ici dans la capitale, qui étaient des périodes très clean. Mais il faut enlever un mythe quand même, c'est-à-dire que le pourcentage de gens qui sont au-dessus des plafonds de ressources est assez faible, il est autour de 8 ou 9%, dont sur ces 8 ou 9%, 2% sont vraiment des gens qui pourraient aller sur le parc privé.
Et 65% en dessous.
Eh bien, évidemment. Et
pourquoi on n'encourage pas ceux qui, justement, pourraient aller ailleurs et laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin?
Ça, je pense qu'il faudra y réfléchir à ceux qui sont... Oui, mais attention de faire de pas faire l'amalgame trop rapide, parce que la plupart des gens qui sont au-dessus des plafonds de ressources, ce sont des personnes qui avaient 2 ou 3 enfants à charge. Les enfants sont devenus adultes. Les gens sont restés... Ils n'ont pas changé un iota de leurs ressources, c'est-à-dire ils sont toujours autour de 1 500, voire de 2 000 euros. Le problème, c'est que le fait que les enfants à charge soient partis, leur quotient familial, ce qui permet d'accéder au logement HLM, est passé au-dessus. Et est-ce que ça veut dire que toutes les personnes qui arrivent à l'âge de la retraite, ils doivent quitter le logement social dans lequel ils étaient sous prétexte que les enfants ne sont plus là? Ça, c'est un vrai problème de société. Par contre, c'est vrai qu'on a un vrai problème de surpeuplement, de sous-peuplement, parce qu'on a beaucoup de logements grands où les gens ont élevé leur famille et ils se retrouvent un couple de personnes de 60-65 ans dans un grand logement, et peut-être ce serait mieux de négocier pour qu'ils puissent aller dans des petits logements. Mais vous parlez d'effets pervers. Je vais vous en parler un que personne ne parle assez, puisque tout le monde cite l'exemple de l'Espagne, le président de la République en premier lieu, vous, monsieur Teinturier, également, en disant l'Espagne a 81 ou 82% de propriétaires. Est-ce que vous savez...
84, exactement. 84%.
Mettons 84. Est-ce que vous savez l'effet pervers majeur de ce produit-là? C'est l'âge de la décohabitation des jeunes espagnols. Il est de 29 ans et demi. Au lieu de 22 ans et 3 mois en France.
Mais
évidemment, ils ne peuvent pas aller dans le locatif. Locatif social, il n'y en a quasiment pas. Le locatif privé, il est très faible et très très cher, d'où l'auberge espagnole où ils font de la colocation, etc. Donc, la seule faculté que les jeunes espagnols ont, c'est, dès qu'ils ont un boulot à 21-22 ans, ils économisent pendant 6-7 ans en restant chez papa et maman, et ils partent en accession à la propriété à 29 ans et demi. Est-ce que c'est ça le modèle qu'on veut? Ils y arrivent parce qu'ils ont une vieille culture catholique, ils ont d'abord plus qu'un enfant, contrairement à nous qui en avons
à 85. Pour leur capacité d'investissement, c'est plutôt les
protestants. Non, mais c'est pas dans la capacité d'investissement, c'est dans la capacité d'union familiale où ça ne pose pas de problème, on peut garder les enfants, ouais. On peut avoir des tanguis, alors je sais pas s'ils les appellent les tangos en Espagne, mais en tout cas, il y a que ça, l'exemple du tangui français qui a fait rire tout le monde. En Espagne, c'est monnaie courante, c'est plus que la moyenne, donc voilà un effet pervers dont personne ne parle. Quand on dit 82 ou 84% de propriétaires en Espagne, il faut voir les conséquences que ça a derrière sur les locatifs, sur la place des jeunes, sur le fait de trouver sur le marché du logement, et le fait que, comme en France, pour accéder à la propriété, on va de plus en plus loin des villes, Madrid, Barcelone, Séville, etc. Et aller voir la pollution à l'entrée de ces villes-là, vous allez dire, à Paris, on craint pas grand-chose pour les comparaisons, mais tout le monde se précipite à la même heure, au même jour, avec ça ou ces voitures, pour aller travailler à Madrid ou Barcelone. Et ça, c'est un vrai problème d'économie durable, de développement durable que notre société va rencontrer dans les années à venir.
Alors, Jacques Donzelot, il vous reste 30 secondes pour donner la conclusion de cette émission.
Très simple. Bon, alors, je souscrirais tout à fait à la remarque de Christian Julien. Pourquoi aller critiquer les Espagnols pour ne pas critiquer le modèle français, alors qu'il suffit de regarder le modèle allemand pour voir à quel point la question du logement social peut être traitée de manière plus rationnelle, sans installation perpétuelle dans le logement, dans des logements qui deviennent soit des lieux de relégation, soit des lieux de privilèges pour ceux qui sont intéressants. C'est moitié-moitié, à peu près. Bon. Et ce serait très bien de faire une comparaison des pays européens, et surtout en Allemagne, pour la maîtrise du foncier, et qui permet effectivement de construire des logements privés de manière non polluante à des coûts pas trop élevés. Comparer, c'est comprendre, et comprendre, on a besoin plutôt que d'arborer des convictions avec autant de foi effrayante.
Jacques Donzelot, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Quand la ville se défait », entre autres. Mais c'est votre dernier ouvrage, il est paru au Seuil en mars 2006. Claire Lévy-Vreeland, vous avez aussi plusieurs ouvrages. Le dernier, « Une chambre en ville », c'est une histoire des garnis et meublés à Paris 1860-1990 avec Alain Fort. C'est paru chez Créafis en avril 2007, donc c'est tout récent. Patrick Doutreline, vous êtes délégué général de la Fondation Abbé Pierre, directeur de la publication sur le mal-logement. On peut évidemment se rendre sur le site de la Fondation. Christian Julienne, merci d'avoir été en duplex avec nous, ce qui est toujours un exercice difficile. Vous êtes l'auteur de « Logement, solution pour une crise fabriquée ». C'est paru aux belles lettres à l'automne dernier. Quant à Alain Tranois, donc, il n'a pu nous rejoindre.
C'était du grain à moudre, une émission de Julie Clarigny et Brice Couturier, hein, pas teinturier, on me confond toujours avec lui et je crois que ça va finir par lui poser des problèmes. Donc l'équipe de production, c'était Aurélie Marseille, Mathieu Sarda, Nathalie Lempereur. Oui, parce qu'il y a des auditeurs qui l'insultent à travers moi. Réalisation Lionel Quentin, la technique Bruno Gagnère-Fontani. Demain, notre sujet sera « Les Français sont-ils capables d'écrire des fictions de qualité ?» Nous serons avec un scénariste, c'est Frédéric Krivine, avec la directrice adjointe de la fiction sur Canal, c'est Dominique Jubin, Éric Maigret, sociologue, et Tania Khalil, directrice des achats de programmes à France Télévisions.